l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Figeac 97.7.
Soyez les bienvenus, midi passé de 1 minute. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Bonjour à vous, Androse Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Je vais très bien, je vous remercie.
Alors voilà, vous n'êtes pas en studio aujourd'hui à Lourdes, mais vous êtes à Tarbes, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est la journée des prêtres et des diacres du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Et oui, depuis ce matin, nos prêtres et diacres sont à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul, à Tarbes. Ils passent la journée ensemble et nous sommes tous invités à les retrouver ce soir pour la messe chrismale.
Voilà, messe chrismale à retrouver à 18h, puis la cathédrale de Tarbes.
Exactement, la cathédrale Notre-Dame de la Salle. Alors c'est bien si vous pouvez venir, vous qui êtes dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, mais si vous ne pouvez pas, bien vous pouvez la suivre en direct grâce à Radio Présence.
On va en reparler dans un instant et puis on va évoquer aussi avec vous dans un instant l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et puis on va vous retrouver et on va retrouver à votre micro des catéchumènes, le témoignage de catéchumènes.
Oui, puisqu'ils sont 32 catéchumènes à être baptisés dans la nuit de Pâques. Et je vous propose aujourd'hui d'entendre les témoignages de Johan, 42 ans, et David, 55 ans. Ils nous racontent comment ils ont rencontré le Christ et comment ils ont décidé de le suivre.
Voilà pour les grandes lignes de cette émission et le sommaire de ce Présence Midi. Un Présence Midi qui démarre en musique avec le Tarbé qui s'appelle Sylvain Dutu.
Mamie parle du temps, c'est pas si pire ce grand soleil, ce petit vent. Comme on respire, mamie nous fait la météo, n'a rien à dire mais nous prévient s'il fait trop chaud. Quand on se fâche, mamie surveille et surtout guette le cours des nuages, elle aurait pu être thermomètre. Quand ça s'engueule, mamie évite et fuit l'outrage, débarrasse seule et s'en va plus loin de l'orage. Elle prend pas part, mamie, elle dit qu'elle comprend pas toutes ces histoires, même si ça anime les repas. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison, loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Mamie souligne, elle a raison, qu'il fait bien noir et surtout froid pour la saison. Comme c'est marrant, mine de rien, mamie savoure tous les instants, mamie, elle connaît bien l'amour. Comme d'habitude, mamie sifflote un petit air, finit sa flûte et se lève comme un courant d'air. Elle est légère, mamie, elle est comme le vent, sert le dessert, elle fait la pluie et le beau temps. Elle prend pas part, mamie, elle dit que c'est pas pour elle, mais elle se marre, elle adore quand c'est le bordel. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison, loin de l'ennui, loin de la pluie, loin des saisons. Tu partiras, mamie, c'est de ton âge, et tu seras parmi les tiens au sein des nuages. Tu partiras, mamie, t'as bien raison.
Loin de l'ennui. C'était la voix de Sylvain Dutu avec son dernier titre qui s'intitule Mamie.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Dans cette émission, on évoque l'actualité et l'agenda des diocèses. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Rebonjour Anne-Rose Jankovic.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors, vous n'êtes pas aujourd'hui en studio. Pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, vous êtes aujourd'hui à Tarbes, puisque c'est aujourd'hui la journée des prêtres et des diacres pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Et oui, comme chaque mardi saint, les prêtres et les diacres du diocèse de Tarbes-et-Lourdes sont invités à se retrouver, à passer la journée ensemble. Alors depuis ce matin, ils ont d'abord eu un temps de prière avec une intervention de notre évêque, Monseigneur Jean-Marc Mica. Et puis ensuite, ils ont eu la présentation du nouveau thème d'année du sanctuaire de Lourdes avec une catéchèse, la catéchèse qui va être déployée au cours des 3 prochaines années au sanctuaire de Lourdes. C'était une intervention de 2 chapelains, le père Nicolas Ventriglia et le père Giuseppe Serighelli. Et puis là, dans quelques instants, enfin en ce moment même, ils sont en train de prier à la chapelle, notamment prier l'Angélus. Ensuite, après le repas, eh bien, ils auront une visite culturelle dans Tarbes. Ils visiteront la maison natale du maréchal Foch et puis le musée de la déportation et de la résistance, donc au cœur de la ville de Tarbes, avant eh bien, de se rendre à la cathédrale Notre-Dame de la Cède pour la messe chrismale, messe pour laquelle tous les fidèles du diocèse de Tarbes-et-Lourdes sont invités à les rejoindre, évidemment.
Voilà, messe à partir de 18h, et durant cette messe, l'évêque va bénir les huiles saintes et va consacrer le Saint-Crâne.
Exactement. Alors d'abord, au cours de cette célébration, après la liturgie de la parole et puis l'homélie de l'évêque, les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales. Ces promesses sacerdotales sont les suivantes: vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements liés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements et annoncer la parole de Dieu avec désintéressement et charité. Donc les prêtres renouvellent ensemble leurs promesses sacerdotales, et puis les diacres sont également invités à renouveler leur engagement d'ordination, soulignant notamment l'importance de leur rôle dans l'annonce de l'évangile. Et vous l'avez dit Gilles, c'est aussi durant la messe chrismale que l'évêque bénit les huiles saintes et consacre le Saint-Crème, les huiles qui serviront dès les baptêmes de Pâques et puis ensuite tout au long de l'année pour les sacrements. Donc vous voyez bien que la messe chrismale, c'est vraiment un acte d'unité pour toute l'Église, puisque elle rassemble, vous l'avez compris, l'évêque, tous les prêtres, les diacres, les consacrés, tout le peuple des baptisés hein, qui sera présent, et puis celui qui sera uni par la prière. C'est une messe qui permet aussi de s'unir à la prière de bénédiction des huiles, de ces huiles saintes qui vont, elles, porter la grâce des sacrements tout au long de l'année, dans toutes les paroisses du diocèse, et puis aussi dans les sanctuaires mariaux. Donc cette messe chrismale qui invite tous les fidèles vraiment à rendre grâce à la fois pour le renouvellement des promesses des prêtres et des diacres, mais aussi vraiment pour le dynamisme de toute notre église diocésaine. Voilà pourquoi c'est un rendez-vous immanquable.
Voilà, et vous l'avez dit, hein, c'est l'un des rares moments de l'année où l'évêque, les prêtres et les diacres sont finalement réunis. Hein.
Ben oui, c'est le seul moment de l'année où ils sont tous à la cathédrale, sauf les années où on a la chance d'avoir des ordinations, une ou des ordinations, mais la messe chrismale, c'est vraiment le rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de la Cède chaque année, vraiment pour toutes les réalités du diocèse.
Évidemment, on encourage les diocésains à se rendre tout à l'heure à 18h à la cathédrale de Tarbes, mais pour ceux hein, qui ne pourront pas se rendre à la cathédrale, eh bien, on se mobilise puisque nous retransmettons ce soir en direct cette messe chrismale sur l'antenne de Radio Présence.
Tout à fait, je vous remercie d'ailleurs Gilles, avec toute l'équipe technique de Radio Présence, de vous mobiliser pour que cette retransmission soit possible.
Voilà pour cette messe chrismale, ce qui nous amène à évoquer le témoignage de catéchumènes. On va en parler dans un instant avec vos invités.
Oui, tout à fait. Vous entendrez dans quelques instants le témoignage de Johan, 42 ans, et de David, 55 ans. Tous les deux seront baptisés dans la nuit de Pâques. Alors, on parle beaucoup des adultes qui vont recevoir le baptême à Pâques. Hein. En France, ils sont 13 234 cette année. Dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, ils seront 32 adultes à recevoir le baptême au cœur des vigiles pascales, donc c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a 17 femmes, 15 hommes. Ils sont âgés de 18 à 58 ans. Alors, ils vont être baptisés dans leur propre communauté paroissiale, ça c'est très important. Alors il y en aura à Tarbes, à la cathédrale, hein, 11 adultes baptisés au cours des vigiles pascales à la cathédrale Notre-Dame de la Cède, mais également à l'église Saint-Jean, à Laloubert, à Lannemezan, à Bagnères-de-Bigorre, à Lourdes, à Lourbarousse, à Vic-en-Bigorre, à Pouillastruc. Voilà, ils seront baptisés par le prêtre de la paroisse en présence de leur équipe d'accompagnement et puis entourés évidemment de leurs parrains, marraines, de leur famille et des paroissiens. Cette dimension-là, elle est très importante parce que voilà, ils sont vraiment portés par la prière de toute la communauté paroissiale, et ça c'est important pour que aussi la communauté paroissiale prenne conscience que ces catéchumènes, une fois baptisés, deviennent des néophytes et qu'il faut les aider, les accompagner pour qu'ils puissent grandir dans la foi et qu'ils trouvent vraiment toute leur place dans la communauté paroissiale, dans la communauté chrétienne, et qu'ils prennent vraiment part à la mission de l'Église. Donc on se réjouit pour le baptême de ces catéchumènes et on se prépare déjà à faire de la place, et c'est bien normal, et ça nous réjouit pour ces néophytes.
Voilà, 32 adultes donc vont recevoir le baptême, un chiffre à retenir, 32 adultes pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. On va évoquer dans l'agenda ce dernier rendez-vous de carême dans le Val d'Azun, c'est dans le sud du diocèse de Tarbes et Lourdes.
Effectivement, et la communauté paroissiale de ce territoire, donc le Val d'Azun, c'est vraiment après Argelès-Gazost, au bout de la vallée, le Val d'Azun, territoire magnifique, dans le village d'Arins-Marsous, demain, mercredi 1er avril à 19h30, dans la salle des fêtes d'Arins-Marsous, vous pourrez visionner le film La Passion du Christ, le film de Mel Gibson. L'entrée est ouverte, bien sûr, à tous, c'est gratuit, et c'est vraiment la proposition qui vient conclure ce temps de carême avant d'entrer dans les jours saints. Voilà, c'est une proposition bien sûr pour les habitants de la vallée et pour les paroissiens de toute la paroisse du pays d'Argelès, mais pour tous, hein, voilà, vous pouvez venir donc visionner ce film La Passion du Christ de Mel Gibson, mercredi 1er avril, 19h30 à Arins-Marsous.
Et enfin, on termine cet agenda avec ce repas paroissial, ça va se passer dimanche à Tarbes.
Tout à fait, cette belle idée, j'allais dire charitable, mais vraiment fraternelle surtout, de la communauté paroissiale de Tarbes, qui invite vraiment à vivre le repas de Pâques, à partager un moment festif après la messe de Pâques, le repas du dimanche de Pâques, donc à la maison Saint-Paul à Tarbes. Pour l'objectif, c'est que personne ne soit seul en ce jour de grande fête, en ce jour de la résurrection du Christ. Voilà, dimanche 5 avril, à partir de 13h, eh bien, vous pourrez déjeuner. Le prix du repas est de 15 €. L'objectif, c'est vraiment d'être ensemble pour célébrer la résurrection du Christ. Ne restez pas seul le dimanche de Pâques. Joignez-vous, même si vous avez peur de connaître personne. Eh bien, au contraire, allez-y. Les gens seront contents de vous accueillir, de vous rencontrer, de vous connaître, et vous rencontrerez aussi des personnes merveilleuses. Donc, si vous êtes tout seul dimanche 5 avril, eh bien, n'hésitez pas à 13h ce repas festif au prix de 15 € donc à la maison Saint-Paul.
Voilà, l'invitation
organisée par la paroisse de Tarbes.
Voilà, l'invitation est lancée et c'est sur cette invitation que je vais vous remercier. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. catholique65.fr ou l'application Au Clocher, eh bien, vous permet de suivre l'actualité et l'agenda du diocèse, Anne-Rose.
Tout à fait, vous avez tout dit. Il y a aussi le bulletin diocésain, mais voilà, les supports sont nombreux pour suivre l'actualité du diocèse. Et surtout, n'oubliez pas, ce soir, donc à 18h, la messe en la cathédrale Notre-Dame de la Cède, la messe chrismale. Et puis, bien sûr, on porte dans notre prière tous les catéchumènes, les 32 catéchumènes du diocèse de Tarbes et Lourdes qui seront donc baptisés au cours de la nuit pascale.
Un grand merci, Anne-Rose Jankovic.
Merci, Gilles.
Et dans un instant, on vous retrouve justement avec le témoignage de catéchumène. On écoutera David et Joanne.
Voilà, exactement. L'un sera baptisé à Tarbes et David à Vic-en-Bigorre, samedi soir.
Merci, Anne-Rose. À tout de suite.
Présence.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Higher and way
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. On retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Bonjour David Soulet.
Bonjour.
David, vous avez 55 ans, vous habitez dans le Béarn, à Castell de Doat, pardon. C'est tout près de Vic-en-Bigorre, d'ailleurs vous êtes vicois d'origine, et c'est à Vic-en-Bigorre que vous serez baptisé dans la nuit de Pâques, samedi soir. On va faire connaissance avec vous, parce que vous savez que cette semaine sur l'antenne de Radio Présence, eh bien, on donne la parole le plus possible à vous, les catéchumènes. Votre témoignage, ça va être une petite séquence émotion, je préviens les auditeurs, je pense qu'ils vont être touchés comme je le suis par votre témoignage. D'abord, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé dans votre vie il y a un an pour que vous vous sentiez, comme vous me le disiez en préparant cette émission, rattrapé par Dieu.
Ben oui, suite à un accident d'homicide, je suis tombé du toit de la maison et j'ai eu multiples fractures. Et pendant cette chute, j'ai eu l'impression que quelque chose m'avait retenu pour avoir si peu de fractures.
Si peu de fractures, vous avez quand même passé un certain temps en fauteuil roulant après.
Deux mois sur un fauteuil roulant, oui.
Mais en tous les cas, au moment de la chute, vous auriez pu mourir et vous vous êtes senti retenu.
J'ai eu l'impression, dans ma chute, il y a eu comme un trou noir, quelque chose. J'ai senti que quelque chose m'a retenu.
Est-ce que à ce moment-là, vous avez réussi à identifier que ce quelque chose qui vous retenait pouvait être Dieu?
Alors je vais pas dire que c'est Dieu, mais je sais que dans ma chute j'ai vu mes grands-parents et ma femme et ma fille.
Vos grands-parents qui sont importants dans votre vie.
Oui, qui sont décédés tous les deux.
Quand vous avez vécu ce temps de convalescence ensuite, en fauteuil roulant pendant deux mois après cette chute, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur? Est-ce que ça a été une période où il y a une réflexion qui a mûri? Comment, après cette chute, vous avez progressivement décidé d'entreprendre un chemin pour demander le baptême?
Suite à cet événement, j'ai senti le besoin de me tourner vers Dieu parce que j'en ressentais le besoin, parce que j'ai toujours eu, le cœur à me tourner vers Dieu. Et donc c'est pour ça que je fais cette démarche maintenant.
C'est intéressant, c'est très beau ce que vous dites. Vous avez toujours eu le cœur tourné vers Dieu, ou envie de tourner votre cœur vers Dieu. Donc vous n'aviez pas été baptisé, vous n'aviez pas été catéchisé, vous ne connaissiez pas l'Évangile. Mais vous aviez quand même une soif de Dieu.
Alors, j'ai fait ma scolarité dans une école religieuse. J'ai fait du catéchisme étant jeune. Mais ça s'est présenté comme ça.
Il n'y avait rien qui avait rejoint votre cœur, quoi.
Non, rien du tout.
Mais il y avait quand même ce désir en
vous. Oui. J'en ai ressenti le besoin.
Dans votre famille, autour de vous, au quotidien, les gens qui vivent avec vous, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, sont baptisées déjà
Alors oui, ma femme et ma fille le sont, et ma belle-famille l'est. Ma belle-mère s'occupe de la paroisse de Castell de Doat. Et donc c'est pour ça que je baigne depuis longtemps dans la religion.
Quel rôle ces personnes-là ont joué dans votre cheminement? D'abord, est-ce que vous vous êtes confié à elles, ou est-ce qu'au début c'était un peu secret?
Au départ, c'était quand même assez secret. C'est quand je me suis dévoilé que j'ai dit mon souhait de me faire baptiser qui n'y ont pas cru d'abord, dans un premier temps.
Pourquoi?
Parce que je suis tout le temps un peu dans la dérision, et ils pensaient que...
On s'est rigolé dans l'Église catholique, attention.
Oui, je te l'ai vu, je sais. Mais c'est pour ça que je me suis lancé.
Alors vous êtes lancé, et dans votre témoignage, quand on préparait cette émission, vous parliez aussi du rôle du prêtre que vous avez rencontré. En l'occurrence, là, c'est le père Raphaël de Lassus à Vic en Bigorre. C'est beau aussi parce que dans les différents témoignages que l'on entend cette semaine, il y a souvent cette histoire de rencontre, et à un moment, bien sûr, la rencontre avec un prêtre qui compte beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, cette rencontre avec le père Raphaël?
Oui, le père Raphaël, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit que je me sentais illégitime auprès de l'Église, puisque je...
Illégitime.
Illégitime.
C'est fort comme mot.
Oui, Oui, parce que pour moi, le baptême, ça représentait un peu l'entrée dans les églises. C'est l'impression que j'en avais. Et le père Raphaël m'a rassuré sur ce point. Il m'a dit que tout le monde avait sa place dans l'église.
C'est-à-dire que vous aviez l'impression de ne pas avoir le droit même d'être dans une église parce que vous n'étiez pas baptisé ?
Oui, c'était le ressenti que j'avais. Alors que presque de temps en temps, je rentrais dans les églises quand j'allais faire du sport ou faire du vélo. Je rentrais dans les églises comme ça pour aller faire une prière.
Ah, il y avait quand même quelqu'un ou quelque chose qui vous appelait. Hein.
Oui, toujours.
Ouais. Comment s'est passé ce parcours du catéchuménat ? Donc votre accident il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a un an, et puis vous allez être baptisé en quelques jours. Donc j'imagine qu'en un an, il s'est passé plein de choses, que ça a été un peu la course vers Dieu.
Ben oui, en fait ça s'est présenté que la mère d'une amie à moi m'a présenté au curé de la paroisse de Sanous, et c'est comme ça que je suis rentré chez les catéchumènes à Vicamigor avec Yaël et... Donc, Jacqueline.
Et ça compte aussi, ça, parce que ça veut dire il y a une équipe, quoi. Je ne sais pas si on peut dire que vous vous êtes senti attendu, mais en tous les cas, vous êtes arrivé, il y avait quelqu'un pour vous accueillir et vous accompagner.
Attendu et bien accueilli, puisque elles m'ont accompagné, elles m'accompagnent encore, et je les en remercie. C'est quand même une grande preuve de d'affection, ou je ne sais pas comment dire, mais...
Il y a de l'amour fraternel en tous les cas.
Oui, il y a beaucoup d'amour.
Alors, on peut dire aux auditeurs, hein, avant d'enregistrer cette émission, on a pris un petit moment pour échanger tous les deux, en off, on va dire. Et je vous ai posé la question de votre découverte des évangiles, de la parole de Dieu. Et vous me disiez en rigolant, ah, qu'est-ce que j'en mange de là. Mais il y a ça aussi, alors on le dit en rigolant, mais quand même tout d'un coup, vous vous plongez dans la parole de Dieu, vous découvrez les évangiles, comment ça résonne en vous ? Est-ce que ça rejoint quelque chose que vous aviez toujours dans le cœur ? Est-ce que vous découvrez, comment ça se passe dans votre cœur ?
C'est un chamboulement parce que il y a plein de choses que je connaissais pas dans les évangiles, dans la Bible. Donc je lis beaucoup de livres qui, voilà, sans être dans l'excès, mais...
Qu'est-ce qui vous touche le plus ? Enfin, parmi tout ce que vous découvrez là, qu'est-ce qui va vraiment au plus profond de votre cœur ?
Oh, je sais pas comment dire.
Il n'y a pas de mots.
Non, c'est compliqué parce que j'en ingurgite beaucoup et au bout du compte, j'apprends plein de choses, mais je ne retiens pas tout. De choses à apprendre.
Et pourtant, Dieu travaille.
Et oui.
Comment vous envisagez votre vie de jeune baptisé ? Dans quelques jours, vous serez un jeune baptisé, vous serez un néophyte. Est-ce que vous arrivez dans l'église en vous disant que vous avez envie de donner quelque chose de vous en particulier, ou que vous attendez quelque chose de particulier de l'église ? Dans quel état d'esprit vous êtes ?
J'en attends rien. Au contraire, je pense que l'église me donne beaucoup déjà. Le fait de d'y croire, déjà, c'est beaucoup. Après, pour ma paroisse ou la paroisse de Vic, j'ai une grande reconnaissance. Et puis, j'ai toujours adoré cette église. Et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de le faire à Vic. Et je tenais à ce que ça soit fait à Vic, justement. Et voilà, après...
Donc, il y aura la communauté, durant la veillée pascale, il y aura la communauté chrétienne de Vic-en-Bigorre et des alentours. Ça, c'est important pour vous ?
Oui, c'est très important. Et puis, il y a toute ma famille qui vient. Ouais. On sera une cinquantaine, je pense, ce soir-là. Donc, c'est important.
Vous avez conscience que votre baptême, est un témoignage pour ceux qui sont peut-être pas baptisés encore, et un témoignage aussi pour tous les baptisés.
Alors,
est-ce que vous avez conscience de ça, qu'aujourd'hui, là, Pâques 2026, vous, David Soulet, vous offrez aussi quelque chose à l'Église ?
Alors, j'avais de la rancœur sur le fait de ne pas être baptisé, enfant, et je suis ravi de le faire en tant qu'adulte, parce que je me rends compte du poids que ça a, et donc non, je suis heureux de le faire maintenant.
Bon, alors on n'a pas dit, David, que vous êtes agriculteur. Vous êtes agriculteur, mais pas seulement. Vous avez deux métiers, en fait, hein, pour pouvoir vivre comme beaucoup d'agriculteurs.
Oui, enfin non, je fais de la pose de menuiserie.
De la pose de menuiserie. Donc vous avez deux emplois. Est-ce que dans votre quotidien, qui est bien occupé par le travail, aujourd'hui, Dieu a trouvé une place voilà.
Je pense que il est en permanence avec moi. J'y pense tout le temps. C'est incroyable à dire, mais je pouvais pas dire ça il y a un an. J'ai l'impression que tout se rapporte à Dieu, qu'on l'a au quotidien, qu'on l'a besoin. On se rattache des fois à pas grand chose et Dieu est beaucoup. Donc c'est un plaisir pour moi de penser à lui.
Merci beaucoup, David, pour votre témoignage, vraiment un beau, merveilleux témoignage. On voit vraiment comment Dieu a été à l'œuvre dans votre vie, dans votre cœur, dans votre famille aussi, hein, puisqu'on entend l'importance de votre épouse, de votre fille, de votre belle famille aussi. On entend que tout ça, c'est très important, mais on voit bien comment Dieu il a été à l'œuvre depuis un an, depuis votre accident, donc, et jusqu'à aujourd'hui. Dans quelques jours, vous serez baptisé. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, David ?
Oh ben, je sais pas, du bonheur, le bonheur.
Bah visiblement, vous l'avez déjà.
Oui,
je l'ai,
oui.
Merci beaucoup, David.
Merci à vous.
Voilà, merci à David pour son témoignage et aussi à Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose qui reste avec nous, puisque dans un instant, on va écouter notre témoignage de catéchumène. C'est Joanne qui sera au micro d'Anne-Rose Jankovic dans une poignée de minutes, dans 3 minutes. Pas d'infos aujourd'hui, exceptionnellement, mais l'information sera de retour à 13h avec l'actualité nationale et internationale et la rédaction française de Radio Vatican. Il est midi et demi.
Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas, et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie et livré tant de combats autour et au fond de toi. En entendant cette voix, sois ma lumière, juste une prière, sois ma lumière, juste une prière. Tant de beauté en tes yeux que tu reflètes de Dieu, c'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Les rides sur ton visage, la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent, viens.
C'était Sois ma lumière. 32 adultes vont recevoir le baptême dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et on écoute au micro d'Anne-Rose Jankovic des témoignages. Après avoir écouté le témoignage de David, on écoute le témoignage de Joanne.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Bonjour Joanne.
Bonjour Anne-Rose.
Joanne, vous avez 42 ans, vous êtes militaire et dans quelques jours, vous recevrez le baptême. Vous serez baptisée dans la nuit de Pâques, le samedi 4 avril, à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Et vous allez aujourd'hui nous donner votre témoignage, nous expliquer pourquoi vous avez demandé le baptême. Peut-être que d'abord, c'est une histoire de révélation, de rencontre. Qu'est-ce qui s'est réveillé en vous pour que, eh bien, vous, tout d'un coup, vous partiez cheminer avec Jésus?
Comme vous l'avez dit, hein, c'est tout un chemin, tout un processus qui s'est mis en place. Moi, ça fait quand même quelques années où ma vie était assez instable. Mmh. Donc, j'étais en recherche par divers moyens, que ce soit le développement personnel, un peu, on va dire, le sport, par les sorties, par pas mal de choses qui me... Donc, moi, tout bonnement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait une semaine où je commençais à mettre petit à petit des choses en place dans ma vie.
Oui.
Donc, essayer de trouver une routine pour aller mieux, notamment à travers le sport, à travers les sorties, la marche, des choses, on va dire, simples, basiques, bien manger, avoir une hygiène de vie.
Mmh. Vous aviez ce désir d'aller bien ou d'aller mieux?
Comme je le dis, en fait, moi, je suis convalescent.
Oui.
Donc, actuellement, je suis en arrêt maladie depuis quelques années, suite on va dire un gros burn-out.
Oui.
Et ça a été la descente aux enfers. Et ce qui s'est passé, forcément, il y a eu beaucoup de bas. Et à chaque fois, j'ai essayé de vraiment me raccrocher à des choses que je maîtrisais, on va dire, donc le sport.
Oui, vous aviez cette quête d'aller mieux quand même.
Cette quête d'aller mieux.
Qui allait vous sortir de l'impasse, quoi.
Mais à chaque fois que je trouvais quelque chose qui me permettait d'aller mieux, Ça a duré jamais. Quelques semaines, quelques mois. Et à chaque fois, après, ça repartait. Je faisais deux pas, on va dire, un pas en avant, deux pas en arrière. Mm. Donc, j'ai décidé à un moment donné de étant donné que je suis aussi, j'ai une petite fille de 14 ans. Mm. Donc, dans mon parcours, vraiment, elle m'a beaucoup aidé. Et même quand ça allait pas, j'avais toujours, ma fille, vraiment au fond de moi, et je me disais, même si ça ne va pas aujourd'hui, je me dis, à un moment donné, ça ne pourra que aller mieux. Quoi.
Oui.
Ça peut pas, la vie, elle ne peut
c'est
pas
dire être... C'est-à-dire que c'est votre fille aussi qui vous donnait une bonne raison d'aller
tout
mieux.
Tout à fait,
quoi.
Oui, tout à fait. Donc, j'avais vraiment cette envie d'être présent pour elle. Donc après, on fait comme on peut, avec nos forces. Et donc...
Vous vous sentiez comment à ce moment-là? Vous vous sentiez... fatigué, seul
Très fatigué, très seul. C'était très seul parce que, en fait, si vous voulez, moi, je suis à Tarbes depuis 2022. Et quelques années auparavant, pendant 14 ans, j'étais en Alsace. Mmh. Donc j'ai dû quitter mon ancien régiment pour me rapprocher de la région, pour me rapprocher de ma fille qui vivait à Pau, à l'époque. Et ce qui fait que du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé seul, donc plus mes amis, plus ma famille. Mmh. Donc là, ça a été très très dur, et c'est là vraiment où ça a commencé à être compliqué. Et jusqu'au jour où, il y a eu un événement qui est arrivé dans ma vie. Alors il est assez mystérieux, même encore maintenant, j'ai un peu du mal à me l'expliquer.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En gros, c'est vraiment une rencontre intérieure. Donc quelque chose qui s'est passé. Donc, ça s'est passé à l'endroit... c'est bizarre de dire ça, mais c'était sous ma douche. Ça a été le début, sur de la musique, de la musique. Je me sentis un peu appelé par quelque chose, on va dire, de surnaturel. Donc je me suis laissé aller, et puis petit à petit, en fait, d'un coup, j'ai ressenti une présence et quelque chose qui m'a bouleversé. Et en fait, là, j'ai même pas pu avoir de doute. Donc moi, de base, je suis pas croyant. Et là, j'ai su, j'ai été convaincu que c'était Dieu, et qui, en fait, il m'a fait voir toute ma vie, m'a fait comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Il m'a fait voir aussi toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie. Et en fait, je me suis écroulé. Quand je vous dis écroulé, c'est voilà, j'ai pleuré. Tout ce que j'avais au fond de moi est vraiment sorti. Et ça m'a libéré d'un coup.
Ouais.
Ça m'a libéré d'un coup. En fait, c'était comme si tout ce que j'avais encaissé depuis ma naissance,
ben, tout est sorti.
Le bon Dieu en fait m'a libéré de tout ça. Et je me suis mis à prier en pleurant et à m'excuser de tout ce que j'avais fait, soit bah, tout ce qu'il m'avait montré.
Est-ce qu'on vous avait déjà parlé de Dieu ? Ou est-ce que c'était un inconnu pour vous ? Vous dites que vous avez compris finalement assez vite que cette présence qui vous envahissait, c'était celle de Dieu. Mais vous l'avez compris parce que vous avez reconnu quelqu'un ou quelque chose dont on vous avait déjà parlé ? Ou qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous réalisez que c'est Dieu qui vous veut ?
Ben maintenant, avec la relecture, j'ai un ami, Cyril, qui est mon parrain d'ailleurs, que j'ai choisi, qui est quelqu'un de très pieux. Et j'étais déjà parti en mission avec lui, il m'en avait parlé plusieurs fois de Jésus et tout, mais c'était beau, mais en fait ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, parce que c'était pas le moment, et j'étais pas sensible à écouter ses paroles, mais je trouvais ça beau quand même. Ouais. Je trouvais ça beau, mais
ça vous touchait, mais ça ne s'arrêtait pas dans
ouais, mais je connaissais toujours pas Jésus, parce qu'en fait qu'on s'intéresse pas à ça, en fait c'est compliqué vraiment de.
Quand vous étiez enfant, vous êtes allé au catéchisme, on vous a parlé de Jésus.
Bah moi, c'est ma mère qui m'a élevé, et en gros, moi, par exemple, mon père est portugais, ma mère est algérienne, donc j'ai été élevé par ma mère. Donc, on va dire du côté de ma mère, ils sont tous musulmans. Alors, ça va de musulmans très pratiquants à musulmans, on va dire, ça fait le Ramadan, et puis deux trois. Ça prie pas forcément, donc. Et en fait, à l'adolescence, je me suis détaché de ça. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, je me revendiquais comme athée. Et après, j'ai suivi mon chemin. Mais je ne connaissais pas Jésus. Et quand ça m'est arrivé, j'ai juste su que Dieu existait. Et j'avais ressenti beaucoup d'amour. Parce que, en fait, ça m'a tellement libéré. Et j'ai su qu'il me pardonnait. Et que ma vie commencerait à partir de là.
C'est-à-dire qu'à 40 ans, vous vous êtes dit, ma vie commence.
Ma vie... pas vraiment, pas dans ce sens-là, parce que là j'ai su que tout ce que j'avais vécu en fait c'était pour en arriver à ce jour-là, et que tout était utile en fait. J'avais cette intuition sans connaître Jésus, sans rien connaître.
Alors sans connaître Jésus, et du coup sans connaître l'Église, sans forcément non plus connaître une communauté chrétienne, du coup quand ça vous arrive, ça, quand sous votre douche tout d'un coup vous êtes happé par Dieu, une fois que vous avez pleuré tout ce que vous avez à pleurer, comment, c'est quoi le chemin ? Vous allez frapper à la porte du premier presbytère ? Comment vous avez fait pour être accompagné et rentrer vraiment dans ce parcours de catéchuménat qui vous conduit jusqu'au baptême là aujourd'hui ?
Ben en fait, dans un premier temps, je me suis tourné assez rapidement vers mon parrain, qui n'était pas mon parrain à l'époque.
Parce que c'était finalement la seule personne qui vous parlait de Jésus, quoi.
Oui, et en fait, c'est maintenant que je me rends compte que quand on dit on s'aime,
ouais.
Mais en fait, c'est exactement ça, quoi. Il m'avait parlé de. Il me parlait de sa foi en 2017, de ce qui s'était passé aussi dans sa vie,
ouais.
Avec Jésus. Et c'est quelque chose qui était rentré par une oreille et sorti par l'autre, mais finalement, je pense que ça m'a marqué, parce que c'est la première personne vers qui je me suis retourné. Et en fait, petit à petit, après la Providence m'a mis les bonnes personnes au bon moment sur ma route. Parce qu'après ça, en fait, j'ai vraiment eu un lâcher-prise. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu très confiance en ce qui m'arrivait. Et ça m'a tellement libéré, en fait, que j'avais plus, je ne voulais plus me poser de questions, en fait. Au début de ma conversion, j'avais vraiment un feu intérieur.
Oui.
Où déjà, j'avais envie de convertir tout le monde. Alors que... J'ai mis du temps à comprendre que c'est pas moi qui convertis. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment ce feu intérieur et cette soif d'apprendre. Et puis, quand on m'a parlé de Jésus, en fait, quand j'allais à la messe, quand je lisais l'évangile, surtout quand on me le lisait, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment l'impression à chaque fois que c'était adressé pour moi. On va dire, avant, j'ai cherché à aller mieux, mais sans jamais chercher auprès de Dieu.
Ouais.
C'est bizarre quand même de...
Du coup, vous allez mieux aujourd'hui.
Oui, parce qu'après, j'ai rencontré Jésus, en fait, on va dire, après. Et du coup, après, j'ai décidé, on va dire, de le suivre et de le mettre au centre de ma vie. Et là, ça fait un an et ma vie... j'ai jamais été aussi heureux Et la seule chose que j'ai en plus, c'est la foi et rien de, on va dire rien de plus.
Vous en avez parlé à votre fille adolescente de tout ce que vous étiez en train de vivre et de traverser?
Oui, tout à fait, oui. De toute façon, elle chemine avec moi parce qu'elle demande le baptême aussi.
Elle sera baptisée avec vous?
Non, elle sera baptisée l'année prochaine.
Un petit décalage, mais oui. Quand même.
Elle est baptisée l'année prochaine.
Parlez-nous un petit peu de. Alors, vous nous parlez de votre rencontre avec Dieu, votre rencontre avec Jésus, votre découverte des évangiles. Parlez-nous de votre rencontre avec la communauté chrétienne. Parce que finalement, on parle beaucoup de la rencontre intérieure, de la préparation intérieure, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment vous avez vécu cette rencontre avec la communauté des chrétiens déjà constituée. Est-ce que vous êtes senti accueilli? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un accueil fraternel? Est-ce que vous attendiez à autre chose?
Pour le coup, je pensais pas qu'on m'attendait, mais j'ai été agréablement surpris. Alors moi, pour tout vous dire, moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, je suis allé très rapidement à la messe. Je pense, le dimanche, ça m'est arrivé le mercredi, oui, je suis allé à la messe. Ouais. Mais j'y allais clairement pas pour les gens, en fait, j'allais vraiment pour Dieu.
Ouais.
Parce que j'avais vraiment cette soif.
Comme un rendez-vous, quoi.
Comme un rendez-vous.
Ouais.
Et en gros, je suis allé dans une petite église au début parce que j'avais pas trop j'osais pas trop aller à la cathédrale ou dans quelque chose de plus grand. J'étais un peu impressionné quand même, et en fait et j'y suis allé avec un couple d'amis d'ailleurs qui m'ont accompagné, et à la fin de la messe, moi j'attends, et pour ce qui m'est arrivé en fait, parce que cette chose surnaturelle qui m'était arrivée, hein, moi je savais pas trop encore, donc je suis tombé sur le frère Joseph Cantounet, et du coup je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, et il m'a donné sa carte, et l'après-midi il est venu chez moi, quoi. Et du coup je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, donc c'est la première personne, on va dire, en dehors de mon cercle proche à qui je me suis adressé, et je lui ai témoigné de ce qui m'était arrivé, et du coup à partir de là, après il m'a accompagné, et il m'accompagne encore aujourd'hui d'ailleurs, on se voit une semaine sur deux pour partager l'évangile. Et du coup, je me suis retrouvé à faire le tridôme ici l'année dernière, alors que je connaissais absolument rien. Mais je me suis dit, bon,
on y va,
si je tombe dessus, peut-être faut pas que je me pose de questions. Bon, c'est beaucoup ce que j'ai fait, surtout au début.
Ouais, ouais.
Et en fait, mais j'ai vraiment adoré. J'ai été accueilli à bras ouverts par la communauté de la paroisse, on va dire, de Tarbes et des environs de Tarbes. Les personnes ont toujours été bienveillantes avec moi. Ils ont été très étonnés d'ailleurs, parce que ça faisait même pas un mois que ça m'était arrivé, donc forcément, quoi, de me voir là.
Ouais. Et ça
je me préparais pas encore au baptême en plus.
Ah oui, vous étiez vraiment encore à aux prémices.
Je savais pas trop ce qui m'arrivait.
Rencontre avec Dieu, quoi.
Tout à fait.
Vous vous attendiez à ça. Est-ce que ça a compté pour vous dans votre parcours, dans votre discernement, dans votre décision vraiment de demander le baptême, cet accueil de la communauté chrétienne?
Alors, ça n'a pas compté, dans le sens où, dès que j'ai, on va dire, vraiment su qui était Jésus et ce qu'il représentait, j'ai tout de suite voulu le suivre, et j'ai su qu'il fallait que je me fasse baptiser. Donc je le fais vraiment par rapport à Dieu. Mais eux, en fait, dans mon quotidien, ils sont là pour moi, et je me sens vraiment porté.
Oui.
Et je me sens accompagné, et je me sens aimé. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Qu'est-ce que vous aimeriez vivre après le baptême? Souvent on dit que bien les catéchumènes, ils sont tout feu tout flamme jusqu'au baptême, et qu'après il faut faire très attention, et c'est aussi notre responsabilité à nous tous qui constituons la communauté chrétienne, de faire attention à bien être attentif à ces catéchumènes qui deviennent des néophytes juste après leur baptême. Qu'est-ce que vous auriez envie de vivre, jeune baptisé, dans l'Église? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, et qu'est-ce que vous avez envie de donner à notre Église? Avec la force du baptême.
En gros, moi, tout ce que j'ai reçu, en fait, au final, ça me remplit quotidiennement, en fait. Donc, j'ai pas besoin de plus, après. Et après, quel conseil donner? Après, c'est vrai que je pense que d'une paroisse à l'autre, c'est différent.
Oui.
La chance qu'on a, par exemple, à la cathédrale de Tarbes, c'est qu'il y a une communauté quand même qui est très dynamique, il y a beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, c'est, bah, pendant le Tridome, c'est là où, en fait, où j'ai fait le choix de me faire baptiser à la cathédrale, parce que je me suis vraiment senti chez moi, assez rapidement. Bon, après, je pense qu'il faut... Faut pas avoir peur et faut se laisser guider et voir où on est appelé à être.
Merci beaucoup, Johan, pour votre témoignage. Donc, vous avez 42 ans et je rappelle que vous recevrez le baptême dans la veillée pascale, pendant la veillée pascale, samedi saint à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Merci pour votre témoignage. On vous souhaite des bons préparatifs. C'est les derniers jours. Voilà, vous êtes dans quel état d'esprit ? Beaucoup d'enthousiasme, je sens. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'émotions en vous.
Bah, je savoure, parce que je sais que c'est qu'une fois dans la vie.
Ah bien, savoure, oui, donc, mais après, la grâce du baptême, elle se savoure toute la vie.
Mais quand même, quand je vois en fait tout le déroulé avec les scrutins, avec, on se sent vraiment, comme je disais, on se sent vraiment porté, aimé. On sent que les fidèles y prient pour nous. Donc c'est quand même un moment privilégié, je pense.
Merci beaucoup, Johan. On continue à prier pour vous. Merci.
Ben merci à Anne-Rose.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Direction cette semaine, le chemin de Bernadette dans nos balades en pays de Lourdes. Et c'est Julie que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on a décidé cette semaine de s'attarder sur deux lieux emblématiques de Lourdes sur ce chemin de Bernadette. C'est le cachot et le moulin de Bolly, un des moulins les plus visités dans le monde finalement.
Exactement. Alors, c'est une nouveauté. Alors, nous avons un chemin de Bernadette qui existait déjà auparavant avec des clous en laiton autour dans les rues de la ville de Lourdes qui regroupe ces lieux de vie. Et nous avons également maintenant des spots vidéo sur certains lieux qui permettent de reconstituer, de vraiment de voir, de s'immerger dans la vie de Bernadette autrefois sur les lieux, ces lieux de vie. Et nous avons notamment à Lourdes la chance d'avoir gardé quasiment intact deux de ces lieux vraiment qui sont emblématiques de Sainte Bernadette, puisque ça va être le moulin de Bolly, où elle est née, sa maison natale, et le cachot, où elle vivait à l'époque des apparitions. Donc c'est vraiment deux lieux qui sont quand même assez importants sur ce cheminement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces deux habitations de la famille Soubirous existaient bien avant Bernadette, et bien avant tous les événements de 1858. Par exemple, le moulin de Bolly, voilà, ça va être l'un des moulins les plus visités au monde du fait de son histoire liée à Bernadette, mais il était également très ancien. Il date d'avant le XVIIIe siècle et il faisait partie de très nombreux moulins qui se trouvaient sur le ruisseau du Lapaca. Alors, le ruisseau du Lapaca, c'est un ruisseau qu'aujourd'hui on ne voit plus à l'œil nu, mais qui existe bel et bien toujours, puisqu'il se trouve sous le boulevard de la Grotte. Voilà, le boulevard de la Grotte qui avait été construit pour faciliter l'accès des pèlerins jusqu'au sanctuaire, entre la gare et le sanctuaire. Et le long de ce moulin, alors il y avait environ 13 moulins à eau. En tout, dans Lourdes autrefois, il y avait 18 moulins. Certains étaient sur le Gave, mais c'était quand même des moulins plus conséquents, vu que le Gave avait quand même plus de débit, il permettait de faire tourner plus de meules, et donc souvent c'était plusieurs familles qui pouvaient vivre dans ces moulins. Là, sur le Lapaca, dans les 13 petits moulins, il y avait en général une famille qui était locataire par moulin, et qui devait reverser ensuite une partie de sa récolte, enfin de sa production, à des propriétaires. Et le moulin Bolly a un nom un peu particulier. C'est un nom d'origine anglaise, le nom de ses anciens propriétaires, en fait, qui y est resté. C'était maître David de Bolly, qui était maître chirurgien anglais et qui est venu s'établir à Lourdes. Bien des années plus tard, la famille de Bernadette va y arriver, notamment par François Soubirous, qui est son père, qui va épouser Louise Castéro. Alors après, François Soubirous, il n'était pas très loin, hein, il venait d'une famille qui était d'un moulin juste en dessous, donc il n'a pas déménagé trop loin. Et Louise Castéro, elle vivait avec sa mère et ses trois sœurs au moulin de Bolly. Et c'est là que Bernadette va voir le jour. et va grandir une partie, voilà, une partie de son enfance. C'était le moulin, selon ses termes, le moulin du bonheur, vu qu'elle y a passé de très belles années de sa vie. Et par contre, c'est en 1852 que le propriétaire du moulin le vend, et que là, son père, François Soubirous, ne va plus pouvoir payer le loyer. C'est à partir de là qu'ils vont commencer à déménager.
Alors, ce moulin de Bolly, le ruisseau du Lapaca, lorsqu'on se balade à Lourdes, ben, on ne le voit pas lui, puisqu'il est sous le boulevard.
Exactement, on ne le voit plus, il est sous le boulevard de la Grotte. Il a été un petit peu enterré à partir du moment où les pères de la Grotte ont fait construire ont fait des grands travaux d'urbanisme en faisant construire tout un boulevard entre la toute nouvelle gare ferroviaire qui permettait d'amener des pèlerins plus facilement à Lourdes et pour les faire arriver jusqu'à la porte Saint-Michel. Il y a notamment la construction du pont Saint-Michel qui va être un temps fort et vraiment un énorme chantier pour pouvoir enjamber le Gave.
Voilà pour ce premier lieu de vie de Bernadette, donc ce moulin de Bolly que l'on peut visiter. Le deuxième lieu, c'est le cachot. Alors pourquoi le cachot ?
Exactement. Alors le cachot, c'est vrai que c'est un nom particulier. Souvent, on peut nous demander à l'office de tourisme, mais pourquoi Bernadette était en prison ? Mais pas du tout, en fait. C'est un nom, comme le moulin Bolly, finalement, le nom est resté à travers les époques, mais ça n'en était plus un. C'était une ancienne prison, effectivement, mais qui avait été désaffectée depuis 1824. Donc c'était plus de 30 ans avant les événements de 1858. Et c'est une petite pièce unique, vraiment très petite, un petit local finalement, qui avait été vendu par la municipalité et qui, de fil en aiguille, est parvenu au cousin de la mère de Bernadette, donc qui s'appelait André Sajous, et qui, devant finalement la pauvreté de la famille Soubirous, qui à ce moment-là a déjà connu 3 déménagements avant d'arriver au cachot, va leur céder la petite pièce. Donc ils vont vivre à 6 dans cette pièce, et ils arrivent au cachot en mai 1856.
Le cachot qui est donc rue des Petits Fossés. Un mot peut-être pour terminer du dernier lieu de résidence à Lourdes de Bernadette.
Oui, alors voilà, par rapport à la rue des Petits Fossés aussi, pour resituer un petit peu, par rapport à la ville médiévale, c'est un nom qui est resté également de cette rue, puisque c'était l'enceinte, finalement, la délimitation de la ville autrefois. Les remparts arrivaient rue des Petits Fossés. Le nom est resté parce que c'était des fossés qui étaient en eau, donc c'était quand même un quartier qui n'était pas très salubre. Ils avaient été asséchés quand même bien avant l'arrivée de Bernadette au cachot, donc c'était déjà une rue, mais ça restait quand même une rue très étroite. Il y avait encore des anciens bouts de remparts, donc c'était quand même assez petit, le soleil ne passait pas trop. C'est pour ça que c'était quand même assez insalubre Comme lieu. Et effectivement, après les apparitions, donc après 1858, dans la famille de Bernadette, on leur a conseillé de déménager, puisque voilà, ce n'était plus possible de rester là. Et effectivement, ils vont quitter le cachot, ils connaîtront ensuite 3 autres déménagements. Et finalement, juste avant que Bernadette ne parte pour le couvent des sœurs à Nevers, sa dernière soirée, elle va la passer à Lourdes, au moulin Lacadée. Alors on le connaît aussi comme la maison paternelle, mais c'était un autre moulin encore, sur le ruisseau du Lapaca. Et ce moulin, il avait été acheté par le diocèse. Alors il a d'abord été loué, puis acheté par le diocèse de Lourdes pour pouvoir héberger la famille Soubirous dignement. Et Bernadette y passera sa dernière soirée en juillet 1866 avant de partir pour Nevers. Elle ne reviendra plus à Lourdes après cela, mais sa famille continuera à y vivre. Et d'ailleurs, c'est encore la famille Soubirous qui gère cette maison paternelle.
Voilà deux lieux que l'on peut visiter à Lourdes. Ces deux lieux sont sur ce chemin de Bernadette, avec désormais un chemin digital, vous l'avez dit. On a donc parlé avec vous, Julie, du cachot et du moulin de Bolly, à ne pas manquer si vous venez à Lourdes. Voilà, un grand merci Julie, on se dit à très vite pour une nouvelle balade en pays de Lourdes. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. À bientôt.
Merci beaucoup Gilles, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Et ma
Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandes. Oh, la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons
présence à Sévrac-le-Château, 102.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
La guerre au Moyen-Orient ne cesse de faire monter et descendre les bourses du monde entier, ainsi que les cours du